D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Les universités et les écoles célèbres ne manquent pas par le monde. Elles qui classent des étudiants sont classées à leur tour. Elles qui font concourir les élèves font des concours entre elles pour savoir laquelle en a formé le plus qui soit devenu des prix Nobel. Je me demande s'il ne serait pas plus utile de savoir laquelle a formé le plus de ratés. J'emploie ce mot dans le sens le plus positif possible. Nous sommes tous des ratés. Même celui qui a le mieux réussi socialement ou économiquement a raté quelque chose, une œuvre, un mariage. Ceux qui ont réussi, ce qu'il est le plus important de réussir sans doute, une œuvre d'art, c'est souvent au prix de tronçons de vie coupés, comme des branches. Raté en fonction de quels critères hystérisés d'ailleurs. Est-ce que Walt Whitman a eu le moindre diplôme? Est-ce que de très mauvais peintres ne sont pas sortis archidiplômés de l'école des beaux-arts? Ah, ne faisons pas comme l'aimable documentariste Ruffin qui, dans une récente tribune au Monde contre Macron, a jugé que les diplômes sont un motif de haine. Donner 3 minutes de succès à un enragé, il se transforme en garde rouge. L'éducation n'est pas une question de résultats, c'est une question de moyens. Un éducateur n'a pas à être jugé en fonction des résultats que son élève a obtenus. Sans ça, il faudrait probablement fusiller les professeurs du fils des milliards et de la télévision qui portent le nom de Donald Trump. Un éducateur ne peut être évalué que sur les moyens qu'il met à la disposition de ses élèves. Il y a pour cela plusieurs modèles. L'éducation à la française a été encasernée par Napoléon et n'a cessé de l'être. Elle inculque des notions aux élèves qui doivent les répéter pour obtenir leurs examens. Les éducations imaginatives, elles, cherchent à leur apprendre des choses dans le sens de leur personnalité. Un collège américain, très peu connu en France et qui a été en activité de 1933 à 1957, a eu une importance considérable sur la culture américaine. Il a formé beaucoup de grands artistes et je n'en donnerai que quelques exemples. En peinture, Robert Rauschenberg. En danse, Merce Cunningham. En cinéma, Arthur Penn. En musique, John Cage. John Cage y a inventé le premier happening, ça se passait en 1952, et il a écrit à ce sujet, je cite, « Le public était assis dans 4 sections triangulaires, la pointe de chaque triangle touchant une petite scène carrée. Des activités disparates, de la danse avec Merce Cunningham, une exposition de tableaux avec Robert Rauschenberg jouant du gramophone, des lectures de poèmes par Charles Olson ou M.C. Richards en haut d'une échelle à l'écart du public. » Et ce collège, ce petit collège qui a donc eu une influence décisive sur les arts américains, se trouvait en Caroline du Nord. Quel est le secret professionnel du Black Mountain College? Je reçois pour en parler Pierre Joris, écrivain, poète, qui a lui-même enseigné dans des universités américaines et vient de publier aux éditions du Castor Astral « Canto diurne ». Pierre Joris, quelle est l'origine de ce collège? Par qui a-t-il été fondé et pourquoi dans cet étrange état, si je puis dire, de Caroline du Nord?
Celui qui l'a fondé, c'est John Andrew Rice, qui était un éducateur innovatif, qui s'est vu jeté par 2 fois par des universités à cause de ses méthodes. Et il avait quand même des amis qui étaient de la même pensée éducative et ils ont décidé de fonder un collège. Alors, Rice était ami de Dewey.
Pardon, il s'agit de John Dewey, n'est-ce pas?
John Dewey, oui.
Dont les dates, je voudrais les donner, sont 1859-1952.
Voilà. L'idée était l'éducation comme dialogue socratique, où il n'y avait pas tellement de différence entre prof et étudiant. L'idée était qu'il y aurait une éducation explorative, basée non sur l'imitation des modèles reçus, mais sur l'invention. En 1933, il a donc réussi, avec quelques amis, de trouver un endroit en Caroline du Nord, pas trop loin de la ville d'Asheville. Au fait, le premier était à côté du village de Black Mountain, le premier campus.
Parce d'où le nom.
Il y en a eu 2, voilà, d'où le nom. Et c'était quelques vieux bâtiments qu'ils ont loués, et ils ont commencé à s'y mettre.
Ils étaient subventionnés par... Ils ont trouvé l'argent où?
Ils ont trouvé un peu d'argent par des donateurs. Donc, évidemment, parce qu'ils voulaient rester complètement en dehors du système éducatif classique. Il n'y aurait pas de diplôme, les étudiants travailleraient de façon indépendante. C'est-à-dire qu'il y a une double filiation d'un certain côté. Mm-hmm. La filiation Dewey...
qui était assez nouvelle aux États-Unis, j'imagine, cette pédagogie-là, non ?
Oui. Oh, je pense que si on regardait de près, étant donné toutes sortes de groupes, que ce soit des Quakers, des autres qui sont venus, il y a toujours eu des expériences, des expérimentations éducatives. Mais on voit là une, là, qui réussit. Alors, très important, immédiatement, il a dit « no governing board », pas de conseil d'administration extérieur.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est les profs et les étudiants qui gouvernent le collège.
Alors, je crois qu'une chose importante, Pierre Joris, ça a été les Allemands, car très vite sont arrivés des immigrés allemands, en particulier du Bauhaus. Et quelqu'un d'ailleurs a dit, quelqu'un qui a été étudiant au Black Mountain College, a dit le seul membre de la faculté à ne pas être allemand était Frank Rice, et il enseignait l'allemand.
Oui, ce qu'il y avait, c'est que Rice avait des amis au MoMA. Et donc, il s'est adressé à ses amis, et à ce moment-là, c'est le moment où il y a eu les réfugiés qui partaient de 33, ce moment en Allemagne, le Bauhaus, haï par les nazis, et les voilà qui partent. Le premier qu'il recrute, ou les deux premiers, c'est Joseph et Annie Albers. Mm-hmm. Et j'aime bien toujours les mentionner ensemble, parce qu'Annie, d'un certain côté, est aussi importante que
C'est sa
Joseph.
Femme, c'est sa sœur.
C'est sa femme. Il vient donc du Bauhaus.
Et là, c'était un peintre, n'est-ce pas?
C'est un peintre. Et elle est weaver. Elle fait du textile, toutes sortes
du tissage.
Mais c'est vraiment assez incroyable si on regarde les tissages qui sont aussi compliqués, aussi beaux, des œuvres d'art aussi parfaites que les grands tableaux des expressionnistes abstraits. Alors, le Bauhaus... Ce qui est intéressant, c'est que le Bauhaus, l'art principal, évidemment, c'est l'architecture. Donc, tous les arts qui sont en dessous de l'architecture sont un peu à égalité. Et donc, quand... C'est ma façon de le penser. Et donc, Joseph, il peint, et Annie, elle tisse. Et quelque part, dans le milieu égalitaire de Black Mountain... Les arts commencent comme ça à se mettre en place.
Ah oui, les hiérarchies sont changées.
Ah oui. Et on amène des potiers aussi. Alors la poterie devient un des grands arts de Black Mountain. Il y a ce sens d'égalité, comme on veut mélanger les arts. Autre très belle qualité de Joseph Albers, c'est que bien qu'il vienne de cet art géométrique du Bauhaus, et sa peinture le montre, même après... il va peindre toute une série autour du triangle et des formes géométriques. Mais il s'intéresse aussi aux surréalistes, à des artistes qu'on appelle les humanistes, donc oui, à la figure humaine qui joue encore, mais aussi immédiatement à l'expressionnisme abstrait naissant. Et puis il va s'intéresser aux opérations de hasard que Cage utilise. Donc il est assez vaste. Et son propre travail, on le voit évoluer. Subitement, dans ce coin de la Caroline du Nord, ses forêts, cette nature immense, le trait géométrique dans les peintures d'Albers commence à vaciller. Ça s'ouvre. Subitement, il ne peut plus simplement faire son mondrian. Alors, les méthodes d'enseignement étaient très différentes.
Alors, pardonnez-moi de vous interrompre, justement, parce qu'on était sur les immigrés allemands du Bauhaus. Quelle sorte de fusion s'est produite entre ces nombreux Allemands, avec malgré tout, j'imagine, une certaine forme d'esprit allemande et peut-être rigoriste, plus ou moins, et la pédagogie américaine? Comment est-ce qu'il s'est produit une fusion qui a mené à quelque chose de très particulier?
Je crois qu'il y a eu un certain moment de fusion. Et quelqu'un comme les Albers sont exactement entre là-dedans. D'autres n'ont pas tellement bien marché là-dedans. Pour moi, pour regarder le tout, ce n'est pas tellement simplement le Bauhaus ou les Allemands qui viennent. Parce qu'il y a d'autres. Il y a des Français, il y a l'un ou l'autre. Pour moi, tout le Black Mountain, c'est l'image la plus nette, la plus claire du passage du flambeau de l'Europe aux États-Unis au niveau de l'art.
Hein. C'est-à-dire que vous datez ça d'avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme on le fait habituellement.
Ça commence là. Les peintres américains, les jeunes étudiants américains qui arrivent là-dedans, qui font que justement les gens comme Albert lâchent la chose européenne et s'intéressent, commencent à s'intéresser à la chose américaine. Et puis évidemment, après 50, c'est fini. Disons, ça finit en 40, c'est 47 ou 49, je ne sais plus exactement, qu'Albert part.
D'ailleurs, à ce moment-là, pardon de vous interrompre, j'ai noté le nombre d'étudiants, j'ai trouvé le nombre d'étudiants en 1948, c'était très peu, ils étaient 86.
Oui, mais pour les méthodes d'éducation, si on peut encore en parler un moment, il y a une très belle image dans un des livres sur Black Mountain, où on compare Albers et de Kooning. Parce que de Kooning, il a beaucoup enseigné aussi. Alors, Albers est devant sa classe et il parle à toute la classe. Il délivre. Et les étudiants sont assis sur leurs chaises, leurs bancs, avec leurs petits tableaux devant eux, très bien dessinés, très nets. Hein, et Albers les adresse à tous.
Un peu prussien.
Un peu prussien. Quand même encore. De Kooning, lui, ne parle pas au tout. Il va d'un étudiant à l'autre, qui se tiennent, et d'ailleurs c'est un peu plus éparpillé dans l'espace, qui se tiennent devant leur canevas un peu plus grand. Alors, il ne leur parle pas, il ne leur dit rien. Il attend que l'étudiant rencontre un problème avec ce qu'il fait. Et là, il dit, ah mais écoute, ce problème, peut-être on peut le résoudre comme ceci ou comme cela. C'est une façon très très différente. Il y a des gens qui ont pris des cours avec les deux et qui se sont dit, mais la synthèse était magnifique pour un étudiant d'avoir Albers et de Kooning.
On peut pas dire que c'était une utopie dans la mesure où c'était réalisé et que d'abord bien souvent les gens quand on leur dit utopie pensent à ça veut dire n'importe quoi. C'était au contraire très raisonnable et très calculé tout ça.
Oui.
Il y avait un projet très ferme.
Il y avait un projet ferme. Le projet... Et c'est ça l'ouverture, le projet a pu changer constamment, et il a changé constamment. C'est-à-dire, il y a eu une évolution des projets. Il y a eu des révoltes fortes, fin des années 40.
Quelle a été la position du collège, si tant est qu'il y a eu une position unique, pour les questions très très importantes de l'époque qui commençaient à surgir? Je pense à la déségrégation, aux femmes et aux homosexuels.
Compliqué. Ils voulaient toujours de l'intégration. Mais c'était assez difficile d'avoir des étudiants noirs. Ils ont eu un premier, je crois, vers 45. Une première.
Est-ce que c'était même légal?
C'était légal qu'ils aient un étudiant, des étudiants noirs. Ça, c'était pas un problème. Le problème, il y avait un problème avec Black Mountain College. Ils ne voulaient prendre que des filles.
Des filles noires, vous voulez dire? Ah bon? Pourquoi?
Au début, on n'autorisait pas les mâles à devenir étudiant. Et là, je crois, là-dedans, j'ai pas trouvé d'explication exacte, mais c'est clairement un truc sexuel, un problème. Ils ont eu des profs noirs, relativement tôt, quelques grands peintres, il était Jacob Lawrence. Après, ils ont beaucoup essayé d'avoir des étudiants, mais c'était difficile. Et un des profs noirs l'a même expliqué, je crois que c'était à Albers, à un moment, il dit, écoutez, c'est difficile pour des jeunes noirs de venir là. Un jeune noir qui va à l'université, il va pour avoir un diplôme et pour avoir un meilleur boulot. Venir ici, où on n'a pas de diplôme et où l'avenir n'est pas, ce n'est vraiment pas la façon... Donc, ça a été difficile, mais les étudiants étaient tous pour une intégration totale, c'était à ce niveau-là, oui, c'était progrès.
Et les autres minorités?
Alors, pour les minorités gays, il y a eu un grand scandale en 1945. Il y avait Bob Wunsch, qui était un théâtreux, qui enseignait le théâtre. Et un soir, les flics l'ont pris en bordure de forêt avec un marine dans la voiture. Bon. Heureusement, ça aurait pu être vraiment grave parce que les lois à l'époque étaient très méchantes. Heureusement, quelqu'un a réussi à parler à un juge qui a parlé au juge et le juge a diminué ça sur une charge de vagabondage. Mais l'interpellé a immédiatement appelé Black Mountain College et a dit « Voilà, je tombe à démission ». Justement pour ne pas causer des problèmes gênés. ce qui...
Et la démission a été acceptée.
Et la démission a été acceptée, voilà. Donc, il est parti, voilà. Donc, 45. Cinq ans plus tard, on appelle l'été homosexuel. Mais, par ailleurs, c'était assez
libéral.
C'était libéral, c'était ouvert, oui.
De nombreux musiciens ont étudié au Black Mountain College. Le plus connu, je l'ai mentionné dans mon introduction, étant John Cage. Nous allons en entendre un autre qui est Lou Harrison. Et voici donc Hear His Holiness, extrait des Strict Songs par le chœur et l'orchestre de chambre de Santa Cruz. Pierre Joris, dans cette deuxième partie de Secret Professionnel, je voudrais que nous nous attachions maintenant à quelques artistes en particulier, après avoir parlé des généralités si intéressantes du Black Mountain College. Et donc, je voudrais qu'on s'attache à la peinture, à la poésie et à la musique.
Une image de la peinture pour ramasser un peu les choses ensemble. L'image, c'est sur le toit du building où il mangeait, il faisait presque tout. Il y avait des gravelas, des petites pierres. Il y a deux figures, Bob Rauschenberg et Cy Twombly, qui regardent en bas où il y a un grand canevas goudronné.
Avec une toile.
Une toile.
Goudronnée.
Goudronnée. Et les deux, chacun jette une poignée de petites pierres de cailloux là-dessus. Entre les deux se tient leur professeur, Robert Masarwell, qui gesticule et qui dit « Oui, allez, jette encore là, encore là, encore, swow, swow. » Tu vois, continue à vers ça. Très belle image. Ou l'image après, les deux, Rauschenberg et Twombly, rentrent dans la salle pour faire du dessin et le modèle n'arrive pas. Alors les deux vont de l'avant de la scène, se déshabillent et se mettent là pour les autres. C'était ça, Black Mountain.
En matière de musique, je citais dans mon introduction le premier happening inventé là-bas par Cage. Alors comment, de qui Cage était-il l'élève? Combien d'années a-t-il passé là-bas?
Cage n'a jamais été l'élève. Cage avait déjà entendu parler dans les années 30 de Black Mountain et s'y intéressait. Et dans les années 40, à un moment donné, ils circulaient avec Cunningham, ils donnaient des concerts. Cunningham dansait et c'était le moment où Cage était au piano. Et les deux circulaient dans les États-Unis. Ils étaient dans le coin, ils se sont fait inviter, ils ont donné un concert à Black Mountain. C'est ça ce qui a démarré leur connexion.
Est-ce qu'on sait, parce que nous, évidemment, rétrospectivement, comme John Cage est devenu extrêmement célèbre, on pense que tout ça a fait un grand fracas. Est-ce qu'on sait si cette première expérimentation a eu le moindre succès, a fait le moindre scandale? Est-ce qu'on en a beaucoup parlé? On sait ça?
On ne sait pas vraiment parce que, on invitait les gens du coin. D'ailleurs, pour revenir sur le moment des Noirs, des étudiants noirs, quand ils faisaient les deux premiers enseignants noirs qui chantaient, on avait fait un grand concert et on avait invité les gens du coin. Les étudiants faisaient les ushers, les gens qui rentraient et asseyaient les étudiants.
Les
on leur avait bien dit, ne vous en faites si on vous demande où est-ce qu'il faut s'asseoir, vous dites n'importe où. Hein, ce qui était très rare.
Très important et très rare, oui, bien sûr. Et puis en plus en Caroline, qui est un état. Ouais.
Et pour la pièce théâtre, il y avait, je pense, avant tout les étudiants et la faculté. Beaucoup, c'était là, si c'est inventé le matin, produit le soir, on n'a pas le temps de faire venir des gens de l'extérieur.
D'ailleurs, pardon, mais ça montre aussi l'extrême libéralité, la souplesse de ce collège, parce que monter du soir au matin, quelque chose comme ça, ça veut dire que les profs sont très libéraux, disent « allez-y » tout simplement.
Ah oui, non, mais ça se passait tout le temps comme ça. Les profs et étudiants étaient magnifiquement entrelacés dans leurs activités. Twombly n'a jamais pris de classe avec Hodgson, mais Hodgson est allé au studio de Twombly regarder ce qu'il faisait, et « waouh ! » Il a écrit une introduction pour le premier catalogue de Twombly. Twombly a immensément appris de la poésie.
Si on peut en rester deux secondes sur la musique, finissez-moi John Cage. Lui-même donc est revenu plusieurs fois. Est-ce que lui-même a enseigné? Qu'est-ce qu'il a fait à Black Mountain?
Oui, il a enseigné, mais c'est très difficile parce qu'il a essayé d'avoir des étudiants qui venaient l'aider. Et c'est au moment où il coupait de la bande magnétique. Et donc, ils étaient simplement censés l'aider, couper et coller. Et ça faisait... Il n'y a personne qui s'est présenté.
Évidemment.
Alors, ce qu'il a fait, simplement, c'est qu'il faisait ce qu'il faisait. Il invitait les étudiants à venir là et à discuter le bout du rat. Et les cours, c'était assez dingue. Mais une autre image que j'adore, c'est vers 52. C'est là le moment où Cage fait... Je crois que c'est la dernière année qu'il est là. Hodgson, l'immense débraillé réacteur, semi-réacteur, tout le monde débraillé, sa vie à un homme. Mais il y a cette figure, il y a Cage en costard avec col dur, petite, et les chaussures noires bien cirées. Alors quelqu'un a dit, c'était un employé des Pompes Funèbres, on aurait dit. Le voilà.
Il s'habillait comme sa musique.
Il s'habillait comme ça, exactement. D'ailleurs, quelqu'un a aussi dit la différence entre Hodgson et Cage, savoir que l'un argumentait pour l'ordre, mais était complètement anard dans le vécu, et l'autre argumentait pour l'anarchie, mais était complètement ordonné dans sa vie. Cage, Hodgson, l'autre.
Alors justement, je voudrais qu'on s'arrête, ça fait deux fois que vous prononcez son nom, et il mérite qu'on s'arrête sur lui, c'est Charles Hodgson, dont les dates sont 1910-1970. Il n'est pas très très connu en France, deux de ses livres ont été traduits en France, un petit livre sur Melville, et les poèmes de Maximus, son grand œuvre, ont été traduits récemment. Alors expliquez-nous d'abord l'importance de cet Hodgson qu'on connaît si mal en France.
Hodgson est, pour l'Amérique, pour la deuxième moitié du XXe siècle, peut-être la figure poétique la plus importante. Si c'est Pound, la première moitié, c'est Hodgson.
Plus que Williams.
Williams est avec Pound dans la première moitié. Dans la deuxième, bon, on pourrait dire, il y a Duncan et Crilly avec Hodgson. Il y a ça. Mais c'est cette force-là. D'ailleurs, Hodgson est allé voir à Washington dans les années 40, 45, 46, vers là. Il est allé voir Pound, enfermé à l'hospice psychiatrique. Et ils ont parlé parce que Pound est hyper important. Et Hodgson a écrit quelques textes très forts sur Pound à l'époque. Et sur
Quel était le style de poésie de Hodgson? Qu'est-ce que c'est que son Maximus?
Maximus, c'est une adresse aux citoyens de la ville. Maximus est une figure presque mythique. Il y avait le Maximus de Tyr. D'ailleurs, il a fait une pièce de théâtre qui fut produite à Black Mountain. Mais la figure de Maximus, c'est aussi lui. Hodgson faisait 2,04 m et 200 kilos. Il était immense, avec une voix immense. On peut l'entendre sur les enregistrements qui nous restent. Donc, c'est lui aussi, Maximus. La ville à laquelle les poèmes de Maximus s'adressent, c'est Gloucester. Mm-hmm. C'est le port au nord du Massachusetts, au nord de Boston. Et c'est de là, il vient de cette région. Il a pris Gloucester comme la ville qui montre la déchéance américaine au niveau économique, au niveau de culturel, de tout ce qui s'est passé. Hodgson est très absolutiste. Il a dit le problème pour l'Occident a commencé avec Platon. Platon, c'est la fin. Avant, il faut aller avant. Hein. Et par exemple, celui qui lui importe, c'est Héraclite, et vers la, disons, de Platon jusqu'au XXe siècle, jusqu'à Heisenberg, c'est foutu. La Renaissance qui a foutu l'homme au milieu, au centre de l'univers, c'est ça la grande gourance. J'aurais dit, parce que à ce moment-là, on a oublié la nature, le cosmos, tout ça. Un mauvais placement de l'homme. Ce n'est que maintenant qu'on peut essayer de le rattraper.
Et donc tout ça commence à se traduire brièvement dans son enseignement à Black Mountain.
Oui. Hodgson ne vient pas. Il commence à écrire assez tard. C'était un brillant élève à Harvard. Il a écrit le premier très beau livre sur Melville. C'est son premier livre. Mais puis, durant la guerre, il était pris dans la politique. Il a failli devenir ministre de Roosevelt. Il voulait être ministre de la Poste parce que son père était facteur. Et ça l'aurait beaucoup intéressé. Mais il a commencé à voir comment la politique, c'était quand même des backroom deals, ça se passait dans l'arrière-fond des bistrots. Et alors, en dégoût, il est sorti et a décidé, bon, mais je vais être poète. Et il y avait quelqu'un avec qui il correspondait, Edward Dalberg. Je ne sais pas s'il est connu du tout ici. Un écrivain de la première moitié du XXe siècle, intéressant, qui a traîné avec des gens très intéressants en Angleterre, un peu partout, qui était... à Black Mountain pour un semestre. Et il s'est fâché avec eux, et il est parti, mais il leur a dit, il y a un mec qui s'appelle Hodgson, amenez-le pour finir mon cours. Voilà, Hodgson est venu, a commencé à y travailler, et Hodgson, d'un certain côté, est revenu au principe de Rice du début. Il a dit, on va continuer, on va aller to the core of the apple, au centre de la vieille pomme que Rice avait en main, et on va recréer cela. Il avait une vue éducatif assez magnifique. Il voulait reformer le Black Mountain en 5 instituts. Un institut des arts où il y avait littérature, peinture, danse. Un institut des sciences naturelles où il y avait l'écologie avant tout. Un institut des nouvelles sciences de l'homme qu'il appelait ça. Lui, il y a enseigné, il a amené des gens. Il voulait ramener Jung, mais il n'y a Jung lui a dit de ramener une de ses amies. Et puis, il y avait les séances d'été avec les artistes, qui étaient très importantes à Black Mountain.
Alors, Hodgson, finalement, est revenu, vous nous dites, Pierre Joris, aux sources originelles ou quasiment du Black Mountain College, lequel a fermé en 1957. Est-ce que le secret professionnel du Black Mountain College n'est pas que sa fin a été sa gloire en quelque sorte, car ses idées, malgré sa fin, se sont répandues dans tout le pays? Et est-ce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, les Beats à San Francisco sont une continuation d'une façon ou d'une autre du Black Mountain College?
Oui, c'est et une continuation et un développement parallèle. C'est-à-dire, ce qui se passait à Black Mountain à partir des années 40, presque fin des années 30, s'est développé dans les années 50 à New York, à San Francisco et un peu partout. Oui, à ce niveau-là, c'était un centre presque nucléaire, en même temps que c'était vraiment là où l'Europe s'est terminée et l'Amérique a fleuri.
C'était Secret professionnel, le 265e. Réalisation Clotilde Pivin. Attaché d'émission Daphné Abgral. Prise de son Éric Boisset. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.